Alors nous voici au deuxième dimanche de l'Avent. Un temps qui parle de lumière au milieu des ténèbres, d'espérance au milieu des mauvaises nouvelles, de paix au milieu des guerres. Nous attendons un enfant désarmé. Comment un enfant pourrait-il nous sauver ? Notre Sauveur vient dans le monde comme tout être humain par une naissance, dans une dépendance totale. Dans l'attente de Noël, nos textes traditionnels nous font sauter quelques années de la naissance à l'âge adulte et on retrouve Jean, celui qui va baptiser Jésus. Jean-Baptiste et Jésus ont sans doute été très proches. Jésus a un grand respect pour celui qui se fera assassiner par le roi Hérode. Quand Jésus apprendra sa mort, il se retirera dans un lieu désert, particulièrement dans l'évangile de Matthieu. Les deux hommes, Jean-Baptiste et Jésus, vont proclamer l'avancée du royaume ou du règne. Le royaume et le règne, c'est le même mot en grec, basileia. Et nous l'avons entendu, on peut dire changer de comportement, on peut dire convertissez-vous, le règne de Dieu s'est approché. Et Jésus va prononcer exactement la même phrase au tout début de son ministère dans le chapitre suivant. Mais alors, quelle est la différence entre les deux hommes ? Je vais dire qu'ils n'ont pas la même approche de Dieu. Jean-Baptiste fait la charnière entre l'Ancien et le Nouveau Testament. Vous avez entendu, il y a une description de son apparence, ce qui est assez rare. Et cette apparence, eh bien, nous fait penser au prophète Élie de l'Ancien Testament. Et donc, Jean-Baptiste est dans cette lignée des prophètes et il va reprendre le ton employé par les prophètes. Il reprend les menaces. Il reprend notamment la notion de colère de Dieu. Par exemple, le prophète Ésaïe dit, dans le chapitre 9, « Avec tout ça, la colère de Dieu ne s'est pas détournée parce qu'ils n'ont pas cherché le Seigneur, le Tout-Puissant. » Évidemment, le défi du peuple d'Israël, eh bien, c'est de découvrir qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Le peuple d'Israël était entouré de peuples polythéistes qui avaient plusieurs dieux. Et donc, le défi de choisir un seul peuple, eh bien, c'était de dire qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Et dans les livres de l'Ancien Testament, les prophètes, les porte-paroles de Dieu, passent leur temps à dire de la part de Dieu « Oubliez les idoles et revenez vers moi ». Et on l'a entendu dans la dernière phrase d'Ésaïe qu'on a lue. Ésaïe le promet « Et toutes ensemble les idoles disparaîtront ». Alors oui, il y a des idoles en statue, en toutes les idoles de la foi des Romains, des Grecs, etc. qui ont disparu, c'est de la mythologie. Mais si on réfléchit à nous-mêmes, peut-être qu'il ne faut pas balayer trop vite cette injonction, parce que les idoles, on pourrait se dire quelles sont nos idoles à nous. Et une de mes définitions, ce serait tout ce qui fait écran entre Dieu et nous. Alors il y a pas mal de choses, tout ce qui nous fait oublier que Dieu est là tous les jours de notre vie, oublier que Dieu est amour avec nous tous les jours de notre vie, pas seulement le dimanche, mais au quotidien. Ça nous permet de grandir dans sa présence et de repousser, de prendre conscience de nos propres idoles personnelles. Et puis nous avons entendu donc dans Ésaïe que l'image des montagnes et des collines est assez négative. L'orgueil des humains devra plier, les hommes hautains seront abaissés. Et en effet, dans un autre évangile, Jean-Baptiste va carrément dire « aplanissez le chemin du Seigneur ». Et puis Jean-Baptiste, eh bien, dans Matthieu, n'y va pas de main morte. Engeance de vipère. Qui vous a montré le moyen d'échapper à la colère qui vient ? Et il insiste en disant « ne vous justifiez pas en prétextant que vous êtes de la lignée d'Abraham ». Il n'y a aucune origine qui peut justifier une attitude qui ne convient pas. Dans l'évangile de Luc, Jean-Baptiste s'adresse à toute la foule, mais dans Matthieu, il s'adresse principalement aux pharisiens et aux sadducéens, c'est-à-dire les chefs religieux qui se disaient purs et puis ceux qui s'occupaient du temple et des sacrifices. Évidemment, ceux-là ont eu une grande responsabilité qui est de guider les personnes vers Dieu. Alors, Jésus, est-ce qu'il a été en colère ? Oui, mais de manière extrêmement précise et ponctuelle. Contre les marchands du temple, et puis, donc c'était les commerçants religieux, les marchands du temple, et puis contre les pharisiens et les scribes, mais il est toujours très précis pour dire ce qu'il leur reproche. Ne cherchez pas à vous cherchez à vous montrer, vous ne savez pas rester humble, vous détournez la dîme, vous ne pratiquez pas la justice, vous êtes des hypocrites. Jean-Baptiste et Jésus sont tous les deux les révélateurs de la nature humaine et des actes injustes de leurs auditeurs. Alors, nous aussi, nous pouvons nous laisser interpeller parce qu'évidemment, l'orgueil est en chacun de nous et on n'y échappe pas. Et c'est important d'y être attentif. Comment réagissons-nous quand on a des paroles de colère comme ça? C'est un peu dur à entendre. Quant à moi, j'ai envie de m'enfuir à l'opposé. Je sais que la menace est une forme d'éducation pour obtenir ce qu'on veut. Et quand on est parent, ce que je suis, eh bien, quand on est trop fatigué, on cède à la tentation de la menace. Quand ce n'est pas de la violence. Les églises aussi ont utilisé la menace pour ramener les gens dans le droit chemin. Mais ça n'est pas productif. L'histoire l'a montré. C'est un petit peu comme ça qu'est née la réforme, finalement. Et les avancées de la pédagogie aussi ont montré que la colère, la menace, n'était pas très productif. Et du coup, là où Jean-Baptiste va se faire menaçant, Jésus va mettre l'accent sur un autre visage de Dieu. À part ces deux exemples où il se fâche contre les chefs religieux, pour toutes les autres personnes, eh bien, il va mettre comme un projecteur sur une image de Dieu déjà présente dans l'Ancien Testament, l'image du Dieu d'amour. Souvent, on me dit « Non, mais j'aime pas l'Ancien Testament parce qu'il n'y a que des histoires de dieux vengeurs, de tout ça. » Mais en fait, les deux sont côte à côte, mais on ne voit qu'un seul côté. On voit très rarement dans l'Ancien Testament le côté de Dieu qui est attentionné, compatissant, amour. Il est pédagogue. Donc, on a par exemple dans Ésaïe, « Ma pitié », donc c'est Dieu qui parle de la part du prophète, enfin, le prophète se fait porte-parole de Dieu, « Ma pitié s'est émue, je ne donnerai pas cours à l'ardeur de ma colère, car je suis Dieu et non pas un être humain. » Le visage de Dieu peut être tendre comme celui d'une mère. Le prophète Osée dit, de la part de Dieu toujours, « Je les menais avec des liens d'amour, j'étais pour eux comme ceux qui soulèvent un nourrisson contre leurs joues. » Quelle belle image maternelle de Dieu. Eh bien, c'est ce visage que Jésus veut vivre avec nous, avec les humains. Un Dieu qui abandonne toute violence, et ça, c'est une étape considérable. Jésus vient en personne incarner le Dieu d'amour, et c'est ce Messie-là que Dieu envoie, ce Messie qui est fils de Dieu. Quand Jean-Baptiste demandera depuis sa prison, parce qu'en fait, il n'était pas si sûr non plus, Jean-Baptiste, que Jésus, en baptisant Jésus, que c'était le Messie. Il n'était pas si sûr. Il va faire demander par ses propres disciples, parce qu'ils avaient chacun leurs disciples, si Jésus est bien celui qu'on attend. Alors Jésus lui répond en citant Ésaïe. « Les aveugles retrouvent la vue, les boiteux marchent droit, les sourds entendent, la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. » Oui, cette promesse messianique se réalise en lui. Mais ce Messie ne comblera pas les attitudes des chefs religieux, parce qu'il ne correspondait pas à l'image qu'il s'en faisait. Jésus est trop humble. Ce Messie ne va pas se défendre par la force ni la violence. Cela ne colle pas avec l'image d'un Dieu tout-puissant. Jésus a été le plus loin possible en tant qu'être humain pour dire son amour de Dieu et pour dire l'amour de Dieu au monde. Il a été le plus loin possible pour être dans l'écoute de Dieu, une écoute parfaite, et dans l'amour parfait pour les autres. Il a été fils de Dieu, car il s'est laissé totalement habiter par le Saint-Esprit. Et quand il arrive au bout de l'amour qu'il a pu donner sur la terre, il a lâché prise et il a laissé la violence des autres s'exercer sur son corps. Ne pas répondre et laisser Dieu agir a été la source de sa force pour cette épreuve de douleur. En se laissant clouer sur la croix, il a tué la haine, avons-nous entendu dans l'épître aux Éphésiens. Ne pas répondre par la violence, ne pas entrer dans cette spirale de toujours plus de violence. Et du coup, c'est une confiance incroyable en Dieu que Jésus a eue, une confiance qu'il nous montre possible, car Dieu l'a relevé de la mort et lui a donné la vie éternelle. Ce Dieu d'amour montre par Jésus la confiance que nous pouvons avoir en Dieu et en Jésus. Mais par Jésus, Dieu nous montre aussi la confiance qu'il nous fait à nous-mêmes. Il nous fait confiance. Si Jean-Baptiste crie de préparer le chemin du Seigneur, c'est que ça n'est pas naturel d'accueillir Dieu, surtout en ce moment, sous la forme d'un petit enfant. Quand on regarde la crèche, Jésus entouré de tous les personnages traditionnels, c'est sous nos yeux qu'il se place. Il se donne à voir. Il se fait humble et nous montre le chemin pour être des enfants de Dieu. L'Éphésien nous dit encore, « Il est venu annoncer la paix à vous qui étiez loin et la paix à ceux qui étaient proches. » Alors oui, agir dans nos vies en gardant cette humilité, c'est se mettre à sa suite en travaillant à la paix. La paix est un travail. Elle fait beaucoup moins de bruit que les guerres, en fait. Mais la paix, elle existe tous les jours. Les réconciliations existent tous les jours. Et à Noël, on identifie Jésus comme étant le prince de paix annoncé par Ésaïe. Ésaïe qui nous dit « Un enfant nous est né, un fils nous est donné. » On le proclame son nom, merveilleux, conseiller et prince de la paix. Oui, préparons sa venue en travaillant à la paix, ici et maintenant, là où nous vivons. Apprenons ce savoir-être que Jésus a développé, parce que c'est un vrai travail. Pleinement présent à l'autre, tout en gardant sa liberté. Pleinement dans l'amour, tout en étant conscient de nos propres limites humaines pour laisser Dieu agir. Et pleinement dans la confiance, en discernant sa présence. Oui, Jésus vient et il a besoin de chacun et chacune de nous. Amen.